Radio 1570 Laval vous présente Loin des yeux, près du cœur. Une émission d'information sur les différentes démarches et situations pour la recherche d'un parent biologique ou d'un enfant confié à l'adoption. Cette émission vous est présentée par le mouvement Retrouvailles. Voici Normée Saint-Pierre.
Bonjour tout le monde et merci encore une fois d'être là en ce dimanche. Alors, je vous rappelle que l'émission est diffusée à 11h le dimanche matin et en rediffusion à 19h le dimanche soir. Et le lundi, l'émission est placée sur le site Internet, mais bon, ça peut aller au lundi après-midi. Là. Alors, je sais que des fois, quand l'émission n'est pas placée, j'ai des messages. Ça peut arriver. Je veux dire, des fois, on a eu un petit problème, comme la semaine dernière, on a eu un problème, mais ça se rétablit assez vite. Alors, dès le lundi, vous pouvez écouter l'émission sur Internet et l'émission demeure là. Alors, vous allez sur la page d'accueil du 1570.ca et vous arrivez sur la page de... où vous pouvez écouter les extraits d'émissions. Bon, toutes les émissions sont là depuis un petit bout de temps, là, même celles qu'on a fait avant cette saison ici. Alors aujourd'hui, je reçois un monsieur qui recherche sa mère, en fait, qui a recherché sa mère, et il a fait beaucoup, beaucoup de travail, puis beaucoup de recherches. Et quand on s'est parlé au téléphone, on s'est déjà rencontrés, nous, il me rappelait ça, mon Dieu, je me rappelais plus, moi, de ça. On s'est rencontrés à une émission de Claire Lamarche, où j'étais invitée dans les années 90 à parler de mon premier livre que j'avais sorti. Et ce monsieur-là était à l'émission, il m'a raconté ça, moi, je me rappelle plus de ça. Et ça me fait grandement plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Il s'agit de Stéphane Bélanger. Bonjour, Stéphane. Vous allez bien?
Oui, très bien.
Oui, alors on s'est remémoré des choses, une chance, parce que moi je me rappelais plus de ça, de cette entrevue-là là, que j'avais fait à l'émission.
J'ai même demandé à ma mère le vidéo qu'elle avait conservé.
Ah oui?
Et je me suis préparé, je l'ai regardé un peu. Là.
Bon, oui, on paraissait-tu bien?
Ben, la mode change.
Alors, Stéphane, on va parler de ta situation. Je veux dire, toi, ça fait longtemps que tu recherches. Alors, raconte-moi ça, tu as commencé quand et comment tout ça s'est passé?
Mes premières recherches ont commencé, j'avais environ 20 ans. J'ai une copine, tout le kit. J'ai mes petits-neveux autour de moi. On pensait fonder une famille. Puis là, ça rejaillit un peu en moi, là, l'identité. Autant qu'avant, j'ai toujours su. Moi, j'ai été adopté, c'était jamais un problème. J'avais comme un besoin, mais 20-21 ans, là, ça brasse beaucoup en moi. Fait que là, ma copine me dit, écoute, Steph, là, faut que tu fasses quelque chose. Là. Ce qui fait que je me suis beaucoup impliqué avec le mouvement Retrouvailles. Et officiellement, moi, les services sociaux ont activé ma demande là, le 9 mars 87, pour être très précis. Ils ont reçu ma demande.
OK.
Puis ils ont commencé, eux, à regarder mon dossier, là, voir qu'est-ce qu'il y avait, et ainsi de suite. Ça, c'était vraiment le début de mes recherches en 87. Ça, mais 21-22 ans, là.
Et mon Dieu, bon, c'était un des rares garçons qui le fait aussitôt que ça. Habituellement, les garçons le font un petit peu plus tard, mais toi, bon, je veux dire, ta copine t'a aidé, alors c'est ce qui a fait que t'as... Et aussi, tu voulais, comme tu dis, fonder une famille. Bon, ben, quand on veut fonder une famille, on aime aussi avoir notre histoire à nous, hein, notre histoire biologique surtout aussi.
Ça serait plus, oui, conséquent, plus... une identité, hein, c'est une identité qu'on cherche, là, qui on est, un tronc, là, on cherche comme de quoi de dur...
Mm-hmm,
à quoi s'attacher, on peut dire.
Tes parents adoptifs, je t'avais mis au courant de toi.
Moi, j'ai toujours, toujours su que j'étais adopté. Alors, c'était des commentaires genre, on t'a ramassé sur la route ou un peu comme on parle d'un enfant de 3 ans. Moi, je suis arrivé, j'avais presque 3 ans chez moi. Alors, si je regarde à ma mémoire, je suis à la limite là, de me souvenir de la crèche. Là.
OK. T'es né à quel endroit, toi? T'es né à quelle date?
En fait, je suis né le 7 mars à Montréal, à la crèche d'Youville.
OK.
Ensuite, j'ai été là 6 mois. Mon dossier était un peu particulier parce que là, j'ai comme un trou de 6 mois dans mon dossier. Puis c'est avéré plus tard avec les informations obtenues que j'ai été transféré à Autrise. J'ai passé environ 6 mois là pour revenir à la crèche de Québec Saint-Vincent-de-Paul.
Alors, tu as fait la.
Jusqu'à 3 ans.
Alors, tu as fait la crèche d'Youville, Autrise
oui.
Ensuite.
Oui.
Et retour, ben, c'est-à-dire retour. Et là, transféré à la crèche Saint-Vincent-de-Paul.
Oui. Ça, évidemment, dans mes dossiers gouvernementaux, c'est pas expliqué. Comme ignoré. Si on regarde mes dossiers, c'est un peu étrange. Là. Il y a comme des documents de les 6 premiers mois, tout se fait à Dioville. Le reste, ça fait à Saint-Vincent-de-Paul, il y a un trou de 6 mois. Ça, c'est une religieuse des Sœurs Grises de la région de Montréal qui m'a aidé à me donner quelques informations. Là.
Alors, le trou, il se situe à Autrive, finalement?
Le trou se situe à Autrive, c'est vraiment intéressant. Je ne peux pas parler nécessairement que j'étais dans une crèche ou quoi que ce soit, Mais selon toute évidence, j'ai été transférée là. Moi, l'information que j'ai eue de la part des religieuses, c'est qu'elle avait vraiment un document écrit. Puis elle avait que c'était bien spécifique que j'avais été transférée de Montréal à Outreau par M. Hector Allen à l'époque. C'était un prêtre qui s'occupait de ça. On m'expliquait que c'était un peu commun, parce que transférer un enfant là, par besoin, dans le sens, est-ce qu'on a besoin des enfants autistes, est-ce qu'on va les chercher à Montréal, c'était vraiment un non-sens, ça fallait qu'il y avait des cages beaucoup plus près. Alors la religieuse m'expliquait que c'est très vraisemblablement, j'ai été demandé par la famille d'être approché. Pour une raison ou une autre, ça n'aurait pas marché, et j'ai été relancé à Québec.
Par la famille biologique?
On présume.
On présume. Alors,
non,
ça veut
dire.
OK. Ça veut dire que.
La religieuse, quoi.
OK. Alors, la possibilité que ta mère soit dans cette région-là, et en tout cas, d'après ce qu'on comprend,
c'était. Très probable.
Très probable.
À l'époque. Et moi, mon dossier spécifie, là, père, mère venant de la région Trévidée comme moi.
OK.
Alors, si je regarde mon dossier, ce qu'on sait, vous savez mieux quiconque, il y a beaucoup soit de mensonges, de demi-vérités dans mon dossier.
Oui.
Moi, ça serait très, très plausible. Tout se tient très, très, très bien.
Alors là, t'as été adoptée à quel âge?
Officiellement, en fait, à 12 ans. Mais j'étais avec la même famille de 3 ans à 12 ans. Mais officiellement, j'ai été adoptée en mai 60.
OK, 70, OK.
Ans.
OK,
oui. OK. Mais j'ai toujours été avec la même famille. Moi, j'ai pas été un enfant qui était de famille en famille.
OK, parfait. Alors là, je reviens à tes recherches, là, quand tu pars avec tout ça, là, t'as... Et là, bon, t'as fait affaire avec le mouvement Retrouvailles, d'une part, et t'as fait affaire avec les centres jeunesse.
Oui. Le mouvement Retrouvailles, c'est un peu la première porte à qui j'ai cogné.
OK.
On a souvent l'impression, les gens l'ont encore aujourd'hui, que le mouvement Retrouvailles s'occupe de Retrouvailles.
Non.
En fait, le mouvement Retrouvailles s'occupe pas de Retrouvailles, mais il aide à comprendre, à supporter, à fournir un service d'aide aux Retrouvailles.
Exactement.
Moi, c'est comme ça que j'ai cogné à la porte, puis là, évidemment, m'ont redirigé vers les centres jeunesse.
Oui, parce que...
Beaucoup.
Oui, parce que tous les dossiers d'adoption sont dans les centres jeunesse. Alors là, tu entreprends des démarches, OK, bon, et le centre jeunesse te donne une réponse.
Oui.
Qui est?
En fait, la première réponse, évidemment, que... Pour faire suite à votre demande, nous vous informons que vous êtes né le 7 mars. Là, j'ai pour la première fois un peu ce qu'on appelle nos antécédents socio-médicaux. Ça, j'ai reçu ça le 22 juillet 1987. J'ai la lettre devant moi.
Mm-hmm.
Là, ça a été vraiment la première confirmation. Puis les documents qu'eux n'avaient dans le dossier.
OK.
Un peu plus tard, j'ai fait partie évidemment du service un peu accéléré là, que les services sociaux ont offert.
Dans cette lettre-là, j'imagine qu'il y avait des détails sur ta mère, sur ce...
Oui. Alors, c'est évidemment le certificat de naissance, là, d'enfant inconnu, de parents inconnus, d'abord.
OK. De parents inconnus. Alors, j'aime bien ça, cette phrase-là.
C'est en fait de parents inconnus. Parents S inconnus. Moi, c'est comme ça que c'est passé.
Ben oui.
C'est vrai, c'est un mensonge. Je vous
alors,
ça.
Entre guillemets, feuille de chou.
Je l'avais jamais vu comme ça. Vous savez, Mme Saint-Pierre, je ne veux pas vous retarder, que j'ai rencontré le prêtre qui m'a baptisé.
Ah oui? Oui,
c'est particulier, mais dans mes recherches, à un moment donné...
Attends un peu, là, le prêtre qui t'a baptisé à quel moment, là? À la crèche?
Crèche-Dieuville, le 12 mars 1965, lorsque j'avais 5 jours.
Tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré où?
Pardon?
Tu l'as rencontré où, comment?
Moi, je visais un peu partout. Je recherchais, je fouillais, puis j'étais curieux de nature. Puis il y avait un autre prêtre sur mon baptistère de la Dioville. Alors, je l'ai recherché grâce à l'archevêché et tout, les bureaux. Je l'ai retrouvé, si je ne me trompe pas, dans une maison pour personnes âgées, en perte d'autonomie, sous le boulevard Henri Bourassa, de mémoire, au nord de Montréal.
OK.
Et j'étais le rencontré. Évidemment, l'homme est un peu fatigué, malade. C'est un prêtre en fin de carrière, mais qui m'a quand même un peu parlé. C'était vraiment intéressant. Puis l'homme, bien évidemment, il m'a expliqué, pauvre M. Bélanger, il dit, moi, les enfants, je les baptisais à la chaîne, là, il va en avoir 10-15 devant moi, je prenais une infirmière, un concierge, quelqu'un qui traînait dans les corridors, et let's go, on y va.
Hein. Oui, exactement, on a tous été baptisés. Il n'y en a pas un enfant de la crèche qui a été baptisé tout seul, hein? On était tous plusieurs.
Ça fait que j'ai même rencontré cet homme-là, parce que je voulais l'entendre parler. Puis je me souviens, j'étais un peu... Puis en tout respect, lorsque je suis rentré dans sa chambre, j'ai dit, est-ce que vous me reconnaissez? En fait, ils m'ont pas reconnu.
T'en demandes pas mal, là, par exemple.
Mais c'est ça. Puis j'ai fait d'autres recherches. Évidemment, que ça en est suivi. Là.
OK.
Et mon dossier, évidemment, aussi dans mon dossier, là, ce fameux statutaire-là. Puis ça parle, évidemment, de la description de ma mère, là, 28 ans, race blanche, canadienne française du Québec, 5 pieds 2, 118 livres, yeux pères, cheveux châtains. Elle suivait un cours d'infirmière à 22 ans.
OK. Puis est-ce qu'il y avait d'autres détails?
Ben, les détails très intéressants pour moi dans mes recherches, c'est qu'elle a perdu sa mère à 14 ans et son père à 15 ans.
Fait qu'elle était
même orpheline très, très jeune. Elle avait des frères, des sœurs aussi. Pour être précis, elle avait 4 frères et 6 sœurs. Puis, on parle. Puis ce qui est spécial dans mon dossier, on fait des recherches, ça c'est avant la fusion, parce qu'il y a eu une fusion de deux villes. Hein.
Oui, Autrive, mais comme Autrive,
ouais. Ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était deux villes distinctes.
Oui.
Avant la fusion, puis c'était Autrive. Parce que ça, c'est pas mal les détails. Puis le père, c'était la même chose, là, que blanc aussi, on parle de 28 ans aussi, 5 pieds 11, cheveux châtains, on parle d'un commis de bureau.
Okay.
On sait dans nos dossiers, il y a beaucoup, beaucoup de beaux métiers pour nos parents.
Oui, oui, oui. C'est toujours des bonnes filles, puis c'est toujours des dames exceptionnelles, puis je veux dire, dans le fond, oui, c'est, je dis pas que c'est pas des bonnes filles, là, mais à quelque part, je veux dire, on dirait qu'ils font en sorte que, bon...
Il y a un petit bébé avant ici, là.
C'est ça. Ouais. Et, bon... Là, je sais que toi, ben après tout ça, là, je veux dire, bon, les centres des services sociaux ont fait leur travail, comme tu dis, et c'était toi à l'époque des projets pilotes, entre autres, okay, qui n'existent plus aujourd'hui. Là, alors, il y a plus de frais pour ça. Là, à l'époque, il y avait des frais. Et avec les informations, bon, qu'eux autres t'ont données, parce qu'ils ont réussi à rejoindre ta mère.
Oui. À quelques reprises, c'est un travailleur social qui était embauché, qui en plus restait pas très loin de chez moi, à Lévis.
OK.
Dans ma Lévis. Et il m'a appelé, là, un homme. Puis, il a même un peu, par définition, la loi, on disait, bon, pas sollicitation au jugement carré et tout. Il pouvait juste contacter une fois avec la mère pour l'informer. Mais
ouais.
J'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Ils se sont parlé à quelques reprises. Je comprends bien 3 fois, jusqu'à la réponse finale.
OK.
Alors, il a comme demandé à la dame de réfléchir. Ensuite, elle était dans le milieu hospitalier. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était dans les pleines coupures. À un moment donné, majeur, au niveau, je pense que le gouvernement Bouchard qui a fait ça, je ne me souviens plus, il y a eu beaucoup de coupures, fait qu'elle était en recherche d'emploi, puis là, je suis tombé comme un temps dans sa vie qui avait d'autres chats à fouetter.
Mm-hmm.
C'est ça que j'ai cru comprendre avec le travailleur social, ce qui correspondait encore avec mon dossier, qu'elle était infirmière et tout.
Okay.
Fait que c'est l'information qu'il m'a donnée. Okay. Pour en venir, à un moment donné, on a suggéré peut-être que j'écrivais une lettre. Mais à fin de compte, on ne s'est même pas rendu là. Lui, il a juste pris en détail l'allemand, mon témoignage. Je ne voulais pas, évidemment, rusher ma mère.
Mm-hmm.
C'était bien clair, je ne voulais pas qu'elle s'en attaquer ou quoi que ce soit, prendre rencontre anonyme ou ne serait-ce que correspondre. En plus, moi, j'avais aucun rush dans ma vie. J'étais très content d'en arriver là. Mais c'était pas une course. J'avais tout mon temps. Et je comprenais très, très bien que c'est elle, de toute manière, qui a souffert. C'est elle qui a connu la mauvaise période. Là. C'est pas moi. Moi, je rencontre un étranger ou presque, mais elle, c'est pas un étranger qui rencontre.
Exactement.
Elle rencontre son enfant.
Exactement.
Alors, on n'est même pas au même niveau, je dirais, d'émotion au niveau de la rencontre.
OK.
Sans dire sa main différente, aucunement.
OK. Reste en ligne, Stéphane, on revient après la pause.
Il y a des fils à papa, bons ou mauvais, de ci, de là, moi je l'avoue bien humblement, je suis un fils à maman. Je ne connais qu'une prière, je la fais instinctivement, la prière à ma mère, que je reprends constamment. Pour moi, elle est toujours sur terre. Je crois la voir et je l'entends. Je lui dis comme au temps naguère, es-tu contente, dis maman ? C'est comme une ombre qui me suit. Elle est partout, elle est ici. Sa main me tient toujours la main, comme lorsque j'étais gamin. Je ne connais qu'une prière. Je la fais instinctivement. C'est la prière à ma mère que je reprends constamment. Pour moi, elle est toujours sur terre. Je crois la voir et je l'entends. Et la fin jamais ne diffère. C'est chaque fois. Merci. Maman.
Alors, on est de retour avec Stéphane Bélanger qui nous raconte, bon, tout son parcours pour la recherche de sa mère. Et finalement, bien, t'en es arrivé à ce que ce soit un refus.
Ce fut un refus. Ça, c'est le monsieur m'a dit, écoutez, là, il dit vraiment tout fait, mais elle sent vraiment pas prêt à rencontrer. Puis c'est tout. Ça n'a pas été plus ou moins que ça. Il n'y a plus d'explication haute à donner. J'arrivais vraiment au mauvais moment.
Mais toi, comment tu t'es senti à ce moment-là?
Étrangement, j'étais assez presque. Grâce au mouvement Retrouvailles, je savais les possibilités, les statistiques.
Okay.
Je savais que c'était une possibilité. Heureusement, j'étais préparé à savoir que c'est quand même elle qui avait souffert, qui avait passé la période dure. Et ça m'évitait de me trop me centrer sur moi-même. J'étais déçu parce que je perdais encore mon but de connaître mon identité. Là, s'éloignait de moi. Mais à l'époque, j'avais comme mis ça comme... sur la glace, j'avais dit, bon, on va lui donner 2-3 ans, puis peut-être que la madame va changer d'idée. Ça va qu'elle va changer d'idée, parce que c'est quand même la tour de 95 c'est arrivé.
Ouais.
Mais, bon, écoutez, elle n'a pas changé d'idée, elle n'a pas changé d'idée, mais je respecte ça.
Mais
aussi qu'elle est encore vivante après le droit que j'ai, que les services sociaux me tiennent au courant, là, après un certain âge.
OK, oui.
Puis, qui sait, peut-être qu'elle va changer d'idée un jour.
Mais toi, est-ce que je me trompe ou si t'es pas allé toi-même fouiller quelque part sur la Côte-Nord?
Oh oui, j'ai fait des recherches de mon côté. C'est délicat un peu, parce que je respecte quand même...
Ouais, tu t'aurais pas frappé à la porte dire « je suis votre fils », là?
Non, en plein ça. Parce que souvent, il y a quand même une entente morale de confidentialité.
Oui.
Par écrit, je pense que c'est écrit nulle part que tout était confidentiel. Mais je pense que, techniquement, là, si on regarde un coup, en tout cas, c'était clair qu'il y avait une entente de confidentialité. Alors ça, j'ai beaucoup quand même de respect pour ça. On peut pas s'amuser à revenir sur des ententes qui ont été faites de bonne foi. Mais moi, j'ai quand même fait des recherches à la Côte-Nord. Puis, grâce au fameux prêtre, M. Hollande, qui transférait les enfants, dont moi, on a vu un peu comment ça se faisait. Là, il y avait un gros char.
Oui, oui.
Il y avait 5-6 bébés dans le char, puis on s'en va avec Homo. Ça pleure, ça fasse. Quoi qu'il arrive, le petit monsieur est seul. Puis là, évidemment, on n'est pas à l'époque des sièges d'enfants. Puis
on n'arrête pas pour le connaître crème glacée, là.
Oh mon Dieu! Il y avait une femme, là, pour une femme.
Oui.
Qui recevait les enfants temporairement. Madame Jeannette Plourde, de chute Pointe-le-Bel.
Oui.
Elle avait, j'ai vu quelques photos, là, sa cuisine était remplie de couchettes. Fait qu'elle m'a rencontré. C'est grâce à la sœur de M. Hollande, elle me donne son nom, je rencontre cette femme-là. Elle pense même me reconnaître. Là, je dis Madame Plourde, quand même. Là. Ça fait pas un an. Mais elle m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Sa maison était pleine de couchettes. Puis le prêtre qu'il faisait, mettons, il spotait sous permettait l'anglicisme quelques petits couples qui feraient bien avoir. Qui gongeraient avoir un enfant. Il allait les voir. Il demandait juste pourriez-vous me garder juste quelques semaines? Le temps qu'il soit adopté. Mais souvent, bon, on s'attache à l'enfant, le prêtre, il dit, ah, c'est correct, gardez-le. Puis il faisait adopter ses enfants comme ça.
OK.
Moi, cette femme-là, elle m'a donné des informations. Elle pensait peut-être, elle se souvenait de l'époque, d'une femme qui aurait eu un enfant, qui aurait eu un feu à Pointe-le-Bel ou Chute-aux-Utard. Non, la femme vient de Chute-aux-Utard et le feu a eu lieu à Pointe-le-Bel. Je me suis ramassé au bureau de direction de Pointe-le-Bel. C'est une petite municipalité.
Oui.
Fouiller dans les archives d'incendie, retrouver le nom d'une famille qui, effectivement, la maison brûlée avec sensibilité. visiblement le même nombre d'enfants. Il y a eu 3 décès. Je m'en vais sur la rue, suivant cette information-là, cogné à la porte de quelques maisons. Je rencontre une femme qui se berce peut-être 70 ans, là, qui est toujours restée dans le rang. Puis j'en viens à tellement couper de l'information que j'en suis même revenu à tomber sur un nom d'une femme qui, vraisemblablement, si je recoupais toute l'information comme tenait, peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'elle a vécu. Okay. Parce qu'il y avait toujours le pattern classique que la femme de Québec s'en allait à Montréal travailler, on lui lançait de l'argent ou on y envoyait un manteau de fourrure, elle revenait après avoir travaillé, elle fait de l'argent, ça va bien, en fait, elle était accouchée, et l'inverse, ça faisait.
Oui, oui.
Bécomo, Montréal et tout. Fait que toutes les informations concordaient, mais je ne pouvais pas me permettre d'aller cogner comme non, ça non. À la porte d'une femme.
Non, je comprends très bien. Puis de toute façon, bon, on le dit assez souvent, hein, je veux dire, il faut être prudent. Puis comme tu le disais toi-même tantôt, je veux dire, il y a un respect. Puis celle qui a souffert le plus dans toute cette aventure-là, c'est souvent la mère, plus que l'enfant. Alors, il faut aussi en être conscient. Puis je suis contente que tu l'amènes sur ce propos-là, parce que c'est vrai.
C'était long pour la femme qui a vécu ça. Je peux même pas l'imaginer. Moi, j'étais un homme, peut-être. Mais c'est quand même, là, accoucher d'un enfant, puis en plus, avec les pressions familiales de l'époque, la queue sentiment de culpabilité, le doute dans sa tête.
OK. Ensuite, et là, aujourd'hui, là, je veux dire, t'en es rendu où, là? Par cette émission-là, on souhaiterait bien que quelqu'un reconnaisse cette histoire-là, c'est sûr. Et, bon, c'est certain que bon, il y a toujours nos Colombos qui sont là à l'œuvre, là. Je veux dire, l'histoire peut leur dire quelque chose aussi, mais c'est sûr que bon, juste pour faire une petite parenthèse, nos Colombos travaillent aussi à partir du moment où ils ont des noms. Je veux dire, si t'arrives avec que t'as pas de nom du tout, mais t'as quand même toi une histoire là qui autour de tout ce processus-là, t'as une histoire, OK? Alors, peut-être que les autres vont fouiller, puis en tout cas, on sait pas, mais je veux dire, comme je dis toujours aux gens, écoutez, on n'a rien à perdre, hein, je veux dire, on lance cette recherche-là, puis bon, elle est sur Internet, ça fait que donc, c'est large, hein? Quelqu'un peut reconnaître ton histoire, peut reconnaître, bon, quand tu parles de ce feu-là, puis ainsi de suite, il peut y avoir dans ça, je veux dire, des indices importantes, là, je veux dire. Mais toi, aujourd'hui, là, ton besoin de retrouver, il est quand même là encore. Ouais. Ça fait partie de...
Ça n'inquiète pas, hein. C'est vraiment une identité qu'on cherche. Et moi, dans mon cas, comme je suis arrivé à 3 ans, je sais pas. Moi, j'ai aucun souvenir avant 3 ans. J'ai pas le moindre petit papier, petite photo, petite pantoufle d'enfant. Hein. Puis non. Des fois, c'est les gens qui sont pas adoptés. On pas cette perception-là. On a vraiment un gros, gros, gros trou. Là. Moi, j'ai même eu le sentiment, moi, d'avoir des parents. Je ne connais même pas ça. Je peux même pas dire, ah oui, c'est vrai, le feeling d'être avec son père, sa mère. Moi, je n'ai même pas eu ça une minute dans ma vie. Sentiment. Fait que c'est un peu ça qu'on cherche. Puis, quand on dit l'identité, c'est pas nécessairement la mère. Moi, je sais que ma mère, en ce moment, elle vieillit. Mais quel plaisir ce serait de peut-être rencontrer sa famille.
Mais oui, parce que bon, elle a quand même une grosse famille, là. Tu disais 6 sœurs, puis.
Oui, et c'est 5 frères.
5 frères, fait que c'est quand même une grosse famille, là.
4. Ouais, en tout cas, c'est ça. 4 frères et 6 sœurs. C'est au moins 11 enfants.
Et probablement que tout ce monde-là demeurait possiblement dans le même coin, là, sur la Côte-Nord.
Oui, mon nom fictif est Tremblay, hein. Ça aide pas les recherches. À supposer qu'il est vrai.
Ah, mais les Tremblay, ça dépasse Chicoutimi, là.
Ah, c'est ça, les Tremblay. J'ai regardé un peu dans des choses de généalogie, là, puis j'ai dit, OK.
Alors, le nom de famille, mais ton prénom à la crèche, c'était?
Stéphane Tremblay. Mes parents me l'ont gardé.
OK.
Stéphane Tremblay sur mon baptistère de crèche. Puis mes parents n'ont pas touché, évidemment, mon prénom. Il n'y a aucun problème, là.
OK. Alors, ils ont gardé le prénom de Stéphane, puis le bon...
Oui.
OK. Alors, tu vois, bon, Stéphane Tremblay, si on ne l'avait pas comme détail, là, mais comme tu dis, bon, ben c'est sûr que tu as tombé sur un nom qui... Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des recherches à ce moment-là, je veux dire. Et tes parents...
Pardon?
Tes parents adoptifs, je veux dire, n'avaient aucun détail, les autres non plus, comme tous les autres
non,
parents, là.
Non, vraiment, ils s'en ont pas occupé. Jeune, vraiment, je chantais mes parents adoptifs. En fait, mon père était absent de ça. C'était l'homme classique qui travaillait, qui était parti. Ma mère, c'était peut-être la mère adoptive, classique qui, pendant des années, était très mal à l'aise de parler de ça. Peut-être qu'elle voulait pas être dépossédée de son enfant.
Okay.
Elle dit que c'est moi qui l'ai élevé, je veux pas qu'il s'éloigne. Alors, c'est sûr que jeune, j'ai jamais pu compter sur elle pour s'occuper de ça. C'est même moi qui ai été chercher mon rapport d'adoption au palais de justice, était incapable d'aller chercher.
OK. Probablement, c'est ça, elle avait peur. Elle avait peur de te perdre. Comme beaucoup de mères adoptives aussi ont eu cette peur-là.
Autant qu'avant, elle était comme ça, autant qu'après, elle retournait, on s'est même une couple de fois expliqué, puis là, ça a été tout l'opposé. Elle communiquait avec Mme Lamarche, elle regarde les livres. Fait qu'elle a vraiment fait ses devoirs de mère adoptive. Autant qu'à une période qui était très insécure, que je ne pouvais pas compter sur elle, autant que maintenant, elle est 100% derrière moi. Elle est très à l'aise avec ça.
Ben écoute, on va souhaiter que cette émission-là, cette entrevue-là, donne des petits, hein? On souhaite et j'imagine que bon de toute façon est-ce que tu auras fait une demande oui tu m'as dit que tu avais fait une demande au centre jeunesse à savoir si ta maman était toujours vivante.
Oui okay. Un an ou deux on m'a dit qu'elle était toujours en vie, ça c'est fait.
Bon.
C'est pas évident de chercher une femme hein, parce qu'à l'époque les femmes perdaient le nom.
Exactement,
avec
ouais.
Pour avoir fait des recherches au palais de justice à Bécomo, chercher les listes de décès, je me suis promené dans les cimetières. La femme, à cette époque-là, était comme... Une fois qu'elle était mariée, elle disparaissait au niveau nom, l'identité, hein, beaucoup.
Oui, à cette époque.
Ça complique beaucoup, beaucoup les recherches, je m'en suis aperçu.
À cette époque-là, oui, effectivement, je veux dire, elles perdaient toute leur identité, d'une certaine façon, tu sais, je veux dire. Nous, on cherche la nôtre, puis elle a perdu la sienne.
Systématiquement, oh oui.
Alors...
Vraiment, oui, je m'en suis aperçu.
Ben écoute, Stéphane, je te dis bonne chance, et puis tu me donnes des nouvelles.
Je vous remercie pour tout, Mme Saint-Pierre. Faites un très bon travail. Hein. Je pense que j'étais justement à une réunion du mouvement Retrouveur hier. Puis, vous faites l'unanimité. Merci beaucoup.
Ben, merci, c'est gentil. Au revoir.
Bonne journée.
Alors, c'est déjà la fin de l'émission et cette émission est rendue possible grâce à la collaboration du mouvement Retrouvailles, dont le siège social est au 150 rue Grant à Longueuil, au 450-646-1060, le sans frais 1-888-646-1060 et vous pouvez les rejoindre aussi sur le site le www.mouvementretrouvailles.qc.ca. D'ici là, moi, je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Bye-bye.